Chapitre 10. Une convocation et une épée. Peut-être chaque royaume a-t-il sa propre légende d'un protecteur secret mais puissant, prêt à se dévoiler pour prendre la défense du pays si la nécessité en est assez pressante et les prières qu'on lui adresse assez ferventes. Dans les îles d'outre-mer, on parle de glace-feu, créature enfouie au cœur du glacier qui recouvre tout le centre de l'île d'Aslevjal. Les Outriliens affirment que, quand des tremblements de terre ébranlent leur archipel, c'est à cause de glace-feu qui se retourne et s'agite dans ses rêves hivernaux au fond de sa tanière de glace. Les légendes des six duchés, elles, évoquent toujours les anciens, dont la race antique et formidable résidait au-delà du royaume des montagnes et fut notre allié en des temps reculés. Il fallait un souverain aux abois comme le roi servant vérité loin-voyant pour accorder à ces fables non seulement du crédit, mais encore une importance telle qu'il laissa son trône à la garde de son père souffrant et de son épouse d'origine étrangère afin de se mettre en quête des anciens et d'implorer leur aide. Ce fut peut-être cette foi de celui qui n'a plus rien à perdre qui lui donna le pouvoir à la fois de réveiller les dragons sculptés, forme matérielle des anciens, pour les rallier à la cause des six duchés, et de se tailler lui-même dans la pierre un corps de dragon afin de prendre leur tête dans la défense de son royaume. Le fou poursuivit son séjour chez moi. Mais, après la fin du récit de mes errances, il évita soigneusement tout travail et tout sujet de conversation grave, et je dois bien avouer que je suivis son exemple. Évoquer les années calmes que j'avais coulées dans ma petite maison parut apaiser les spectres du passé. Lors, j'aurais dû retrouver mes vieilles habitudes avec plaisir, mais non. De nouveau, je ne tenais plus en place. Une époque en modification, un temps de changement. Changeur, catalyseur. Les mots et les pensées qui accompagnaient ces termes s'entrelaçaient dans mes journées et s'enchevêtraient dans mes songes la nuit. Désormais, c'était moins le passé qui me tourmentait que l'avenir qui me raillait. En repensant à ma propre jeunesse, je m'apercevais que je m'inquiétais fort de ce que Heur allait faire de la sienne, et il me semblait que j'avais gaspillé les années où j'aurais dû le préparer à faire face à une existence indépendante. Il avait bon cœur et un excellent caractère, je le savais. Je me préoccupais davantage du fait que je ne lui avais enseigné que les rudiments de la façon d'ouvrir son chemin dans le monde. Il n'avait aucune connaissance, aucune formation particulière pour fonder une carrière. Il savait l'essentiel pour vivre dans une chaumière isolée, cultiver la terre et chasser afin de subvenir à ses besoins fondamentaux, mais c'était dans le monde des hommes que je m'apprêtais à le lâcher. Comment s'y débrouillerait-il? La nécessité de lui trouver une bonne place d'apprenti commençait à m'empêcher de dormir. Si le fou s'en rendait compte, il n'en manifestait rien. Ses gouges et ses ciseaux s'activaient dans toute ma maison, et des plantes grimpantes apparaissaient sur le manteau de ma cheminée, des lézards pointaient le museau sur le linteau de ma porte, d'étranges petits visages me lançaient des regards malicieux au coin des portes des placards et depuis les extrémités des marches de mon auvent. Aucun objet en bois n'était à l'abri des instruments aigus et des doigts agiles du fou. Les occupations auxquelles se livraient les elfes aquatiques dont il décora la barrique où je récupérais l'eau de pluie auraient fait rougir le plus aguerri des soudards. Pour ma part, je m'adonnais également à des travaux calmes, aussi bien d'extérieur que d'intérieur, malgré le beau temps. Ce choix tenait en partie au besoin que j'éprouvais de m'accorder une période de réflexion, mais surtout à la lenteur du loup à reprendre ses forces. Surveiller ses progrès ne les rendait pas plus rapides, je le savais, mais j'étais incapable de me départir de mon inquiétude. Quand je tendais mon vif vers lui, je ne percevais qu'un mutisme morose qui ne lui ressemblait pas du tout. Parfois, je levais les yeux de mon ouvrage et le trouvais en train de m'observer, son regard profond empreint d'une expression méditative. Je ne lui demandais pas à quoi il songeait. S'il avait voulu partager ses pensées avec moi, il m'aurait ouvert son esprit. Peu à peu, il reprit ses activités de naguère, mais il avait perdu de son dynamisme. Il se déplaçait avec prudence, sans jamais chercher à outrepasser ses limites. Il ne m'accompagnait plus alors que je passais d'une tâche à l'autre, mais restait étendu sous l'auvent à observer mes allées et venues. Nous chassions encore le soir avec le fou, mais avec une lenteur que le loup et moi affections de mettre sur le compte de l'inefficacité de notre hôte. Œil de Nuit se contentait souvent de repérer le gibier et d'attendre ma flèche plutôt que de bondir lui-même à la curée. Ces changements me troublaient, mais je m'efforçais de faire taire mes inquiétudes. Je me répétais qu'il avait simplement besoin de temps pour se remettre complètement, et je songeais, pour appuyer mon argument, qu'il n'était jamais au mieux de sa forme pendant la canicule. L'automne venu, il retrouverait toute sa vigueur. Nous finîmes par nous installer tous les trois dans une routine confortable. Nous prîmes l'habitude, le soir, d'échanger des contes, des histoires et de petites anecdotes de nos existences respectives. L'eau-de-vie finit par manquer, mais nos bavardages se poursuivirent, aussi moelleux et plein de chaleur que l'alcool. Je racontais au fou la scène dont Heur avait été témoin à Bec de Hardin et lui rapportais les propos que nous avions entendus au marché à propos des vifiers. Je lui narrais aussi ce qu'Astéry avait observé à la soirée des ménestrels lors de la fête du printemps. Ce Quimbre m'avait dit penser de devoir et ce qu'il m'avait demandé à ce sujet. Le fou paraissait absorber mes propos comme un tisserand réunit des fils divergents pour créer une tapisserie nouvelle. Un soir, nous essayâmes les plumes de coq sur la couronne, mais les trous prévus pour leur logement étaient trop larges et elles s'inclinaient exagérément dans toutes les directions. Sans avoir besoin de nous consulter, nous comprîmes que nous faisions erreur. Un autre jour, à la nuit tombante, le fou posa la couronne sur ma table, puis choisit des pinceaux et des encres dans ma réserve. Je m'installai à côté de lui pour le regarder travailler. Il disposa soigneusement tout son matériel devant lui, trempa un pinceau dans un pot d'encre bleue, puis suspendit son geste, l'air songeur. Nous restâmes si longtemps sans bouger ni parler que les petits crépitements du feu enflèrent bruyamment à mes oreilles, puis mon compagnon reposa son pinceau.
« Non, » dit-il à mi-voix, « ce n'est pas le moment, pas encore. »
Il remballa l'ornement et le remit dans son paquetage. Enfin, un autre soir, alors que j'essuyais les larmes de rire que m'avait tiré une de ses chansons paillardes, il posa sa harpe et annonça « Je dois partir demain. »
« Non !»
m'exclamai-je, saisi par cette déclaration inattendue. « Pourquoi ?»«
Bah, tu sais bien, » répondit-il d'un air dégagé. « C'est la vie d'un prophète blanc. Il faut que je m'occupe de prédire l'avenir, de sauver le monde, enfin, ce genre de petites tâches sans grand intérêt. Et puis, tu n'as plus de meubles à sculpter. »
« Non, sans plaisanter, » dis-je. « Tu ne peux pas rester encore quelques jours, au moins jusqu'au retour de Heur, pour faire sa connaissance. » Il poussa un soupir.
« Pour ne rien te cacher, je suis resté chez toi bien davantage que prévu, surtout du fait que tu affirmes ne pas pouvoir m'accompagner à mon départ, à moins que... »
Il se redressa, une étincelle d'espoir dans les yeux.
« À moins que tu n'aies changé d'avis. »
Je secouai la tête. « Tu sais bien que non. Je ne peux pas m'en aller comme ça en laissant la maison à l'abandon. Je dois être là pour accueillir Heur. »
« Ah oui. »
Ses épaules se voûtèrent.
« Son apprentissage. » Et puis, tu as des poulets qui comptent sur toi. »
Son ironie me piqua au vif. « Mon existence ne te paraît peut-être pas très glorieuse, mais c'est la mienne, » fis-je d'un ton mordant. Il sourit, ravi de ma réaction.
« Je ne suis pas Astéry, mon ami. Je ne dénigre pas la vie d'autrui. Songe à la mienne et dis-moi si elle est plus glorieuse. Non, je vaque à mes propres travaux, qui doivent sembler bien ternes à celui qui doit s'occuper de toute une troupe de poulets ébinés des rangées de haricots. Pourtant, mes responsabilités sont aussi importantes. J'ai toute une troupe de rumeurs à partager avec Imbre et des rangées de nouvelles relations à cultiver à Castelserre. »
Je ressentis un pincement d'envie. « Tout le monde va être ravi de te revoir, j'imagine. » Il haussa les épaules.
« Certains oui, probablement. » D'autres étaient tout aussi ravis de me voir partir, et la plupart m'auront complètement oublié. La plupart, voire tous, si j'ai bien mené ma barque.
Il se leva brusquement.
« Je regrette de devoir m'en aller d'ici, »
avoua-t-il à mi-voix.
« J'aimerais croire, comme cela paraît être ton cas, que je suis seul maître de mon destin. Malheureusement, je sais que ce n'est vrai ni pour toi, ni pour moi. »
Il s'approcha de la porte ouverte, et son regard se perdit dans les ombres tièdes du soir d'été. Il ouvrit la bouche comme s'il s'apprêtait à poursuivre, puis il soupira et continua de contempler le paysage. Enfin, il redressa les épaules comme s'il venait de prendre une décision et se tourna vers moi. Il affichait un sourire lugubre.
« Non, il vaut mieux que je parte demain. Tu me rejoindras bientôt. »
« N'y compte pas, »
répliquai-je. « Mais je ne peux pas faire autrement. Les temps l'exigent de nous deux.
Ah, que d'autres que nous se chargent de sauver le monde cette fois-ci.
On doit bien pouvoir trouver un autre prophète blanc quelque part. J'avais pris un ton badin pour ce que je considérais comme une pure plaisanterie. Mais je vis les yeux du fou s'agrandir, et il prit une inspiration qui rendit un son rauque dans sa gorge nouée. N'évoque jamais pareil avenir. Le simple fait que le germe de cette idée réside dans ton esprit m'emplit de sinistres prémonitions, car en vérité, il existe quelqu'un, une femme, qui rêve de s'approprier le manteau du prophète blanc et de lancer le monde sur la route de ses visions. Depuis toujours, je lutte contre son influence, mais dans le changement de direction que nous connaissons aujourd'hui, sa puissance croît. Tu sais maintenant ce que j'hésitais à t'expliquer clairement. Ta force va m'être indispensable, mon ami. Ensemble, tous les deux, nous suffirons peut-être à la tâche. Après tout, il arrive qu'un seul petit caillou parvienne à faire sauter une roue de l'ornière. N'empêche, il me semble que le petit caillou se passerait bien de cette expérience. Il se tourna vers moi. Ses yeux, d'où toute couleur avait disparu, avaient retrouvé leur éclat d'or et reflétaient la flamme dansante de la lampe. Et c'est d'une voix à la fois chaleureuse et lasse qu'il répondit. « Oh, n'aie crainte, tu n'en mourras pas. Il ne faut pas que tu meures. Je le sais. En conséquence, je concentrerai toutes mes forces sur ce but, assurer ta survie. » Je fis semblant d'être atterré. « Et tu me demandes de ne pas avoir peur. » Il acquiesça d'un air exagérément solennel. Je tentai de détourner la conversation. « Qui est cette femme dont tu parles? Est-ce que je la connais ?» Il revint au milieu de la pièce et se rassit à table. « Non, tu ne la connais pas. Mais moi si, depuis longtemps, ou plutôt, pour être exact, je connaissais son existence alors que c'était déjà une femme faite et que je n'étais encore qu'un enfant. » Il me lança un regard perçant. « Il y a bien des années, je t'ai révélé une bribe de mon passé. T'en souviens-tu ? » Il poursuivit sans attendre ma réponse. « Je suis né très loin dans le sud, de gens ordinaires, pour autant qu'il se trouve des gens vraiment ordinaires. J'ai eu une mère qui m'aimait, et mes deux pères étaient frères, comme le voulait la coutume de notre pays. Mais dès que je suis sorti du ventre de ma mère, il est apparu clairement que mon ascendance s'était exprimée en moi. Dans un passé reculé, un blanc avait mêlé son sang à celui de ma famille, et j'étais venu au monde pour reprendre à mon compte et poursuivre les missions de ce peuple antique. Mes parents m'aimaient et me chérissaient, mais ils savaient que mon destin n'était pas de rester parmi eux, ni d'apprendre aucun de leurs métiers. Ils m'ont envoyé là où je recevrais une éducation et une préparation adéquate à ma destinée. On m'y a bien traité, et mieux encore, mes précepteurs me choyaient, eux aussi, à leur façon. Chaque matin, on m'interrogeait sur mes songes de la nuit, et tout ce que j'en rappelais était couché par écrit pour être soumis à la réflexion d'hommes sages. Quand j'ai grandi, et que des rêves éveillés ont commencé à envahir mon esprit, on m'a enseigné l'art de la plume pour que je puisse noter seul mes visions. Car nulle main n'est plus précise que celle de l'observateur lui-même. Il eut un rire d'autodérision et secoua la tête. Quelle façon d'élever un enfant ! Le moindre de mes propos était considéré comme le sommet de la sagesse. Pourtant, malgré mon ascendance, je ne valais pas mieux que les autres gamins, toujours prêts à toutes les malices. J'inventais des histoires à dormir debout à propos de sangliers volants et d'ombres issues de lignées royales. Chacune de mes fables était plus outrée que la précédente, et pourtant, je m'apercevais peu à peu d'un phénomène étrange. J'avais beau puiser à ce que je croyais être ma seule imagination, la vérité se dissimulait toujours dans mes contes les plus échevelés. Il me jeta un regard rapide, comme s'il s'attendait à une objection de ma part, mais je gardai le silence. Il baissa les yeux. Je ne peux sans doute m'en prendre qu'à moi-même, si nul n'a voulu me croire quand la plus grande vérité de tout a fleuri en moi et s'est imposée sans que je puisse la refuser. Le jour où j'ai proclamé que j'étais le prophète blanc qu'attendait notre temps, mes maîtres m'ont intimé le silence.
« Calme tes ambitions excessives »,
m'ont-ils dit, comme si on pouvait convoiter pareille destinée. Ils m'ont appris que quelqu'un d'autre, une femme, avait déjà endossé ce manteau. Elle s'était mise en route avant moi pour façonner l'avenir du monde suivant ce que lui indiquaient ses visions. Chaque époque ne voit l'émergence que d'un seul prophète blanc, chacun le savait, et moi le premier. Je leur ai alors demandé ce que j'étais dans ces conditions. Ils l'ignoraient, mais ils n'avaient en revanche aucun doute sur ce que je n'étais pas.
je n'étais pas le prophète blanc, car il l'avait déjà préparé et envoyé remplir sa mission. Le fou reprit son souffle et se tut un long moment. Du moins, on eut l'impression. Enfin, il haussa les épaules. Je savais qu'ils se trompaient. Je sentais l'évidence de leur erreur aussi clairement que je savais ce que j'étais. Ils ont tenté de faire en sorte que je me satisfasse de la vie que je menais parmi eux. Ils n'ont pas imaginé un seul instant, je pense, que je pourrais me rebeller. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Je me suis enfui, et j'ai pris la direction du Nord, par des voies et des époques que je serais incapable de te décrire. Malgré les obstacles, j'ai persévéré jusqu'au jour où je suis parvenu à la cour du roi subtil loin-voyant. Je me suis vendu à lui, selon des termes assez semblables aux tiens, ma fidélité en échange de sa protection. Une saison s'était à peine écoulée depuis mon arrivée que la rumeur de ton apparition a ébranlé la cour. Un bâtard, un enfant inattendu, un loin-voyant non reconnu. Tout le monde en est resté abasourdi, tout le monde sauf moi, car j'avais déjà vu ton visage en rêve et je savais qu'il me fallait te trouver, même si on m'avait partout assuré que tu n'existais pas et que tu ne pouvais pas exister. Il se pencha soudain et avança sa main gantée. Il ne saisit mon poignet qu'un instant, et nos peaux ne se touchèrent pas, mais, en un éclair, je sentis un lien entre nous. Je ne sais comment décrire cette impression. Ce n'était pas l'art, ce n'était pas le vif, ce n'était pas de la magie, du moins telle que je la connais. Cela se rapprochait de la sensation de déjà-vu dont on est parfois saisi dans un lieu pourtant inconnu. J'eus l'impression que nous nous étions déjà trouvés assis face à face, que nous avions déjà prononcé les mêmes paroles et qu'à chaque fois, elles s'étaient achevées sur ce bref contact. Je détournai les yeux du visage du fou, mais ce fut pour croiser le regard du loup qui me brûla jusqu'à l'âme. Je m'éclaircis la gorge et m'efforçai de trouver un autre sujet de conversation. Tu dis connaître cette femme. Sais-tu son nom ? Tu ne l'as jamais entendue prononcer, cependant, tu as entendu parler d'elle. Tu te rappelles que pendant la guerre des pirates rouges, nos ennemis avaient à leur tête un certain Kébal Pincru. J'acquiesçais. Il s'agissait d'un chef de tribu autrilien qui, par le fer et le sang, était parvenu à une soudaine domination de son peuple et qui avait connu une chute tout aussi rapide à l'éveil de nos dragons. Certaines histoires voulaient que le dragon de vérité l'eût dévoré, d'autres qu'il eût fini noyé. As-tu jamais ouï dire qu'il avait un conseiller, la femme pâle? Cette expression rendait un son étrangement familier à mes oreilles. Fronçant les sourcils, je fouillais mes souvenirs. Oui, des rumeurs avaient couru à ce sujet, mais rien de plus précis. Je hochai la tête. Eh bien, le fou se laissa aller contre le dossier de sa chaise et dit d'un ton presque badin. C'était elle. Un autre détail encore. Aussi fermement qu'elle se croit le prophète blanc, elle est convaincue que Kébal Pincru est son catalyseur. Celui qui permet aux autres de devenir des héros. Il eut un geste de dénégation. Non, pas celui-là. Son catalyseur à elle vient jeter les héros à bas. Elle incite les hommes à devenir inférieurs à ce qu'ils doivent être, car là où je construirai, elle détruit, là où j'unirai, elle divise. Il secoua la tête. Elle est persuadée que tout doit s'achever avant de pouvoir recommencer. J'attendis qu'il complète son affirmation, mais il se tut, et je dus le relancer. Et toi, que crois-tu ? Un sourire apparut lentement sur ses lèvres. Je crois en toi. Mon recommencement, c'est toi. Je ne vis pas que répondre à cela, et le silence retomba dans la pièce. Il porta la main à son oreille. Ce bijou ne m'a pas quitté depuis que nous nous sommes séparés, mais je pense que je dois te le rendre. Là où je vais, je ne puis le porter. Il est trop particulier, et les gens risquent de se rappeler en avoir vu un semblable sur toi, ou sur Burik, voire sur ton père. Sa vue pourrait bien réveiller des souvenirs que je préfère endormis. Et il entreprit, non sans mal, de défaire le système de fermeture. Le clou d'oreille était constitué d'une résille d'argent qui renfermait une pierre bleue. Burik en avait fait don à mon père. J'en avais ensuite hérité, puis à mon tour, je l'avais confié au fou, en lui demandant de le remettre à Molly après ma mort, afin qu'elle sût que je ne l'avais jamais oublié. Plus avisé que moi, le fou l'avait conservé. Et maintenant ? Non, dis-je soudain, garde-le. Il me regarda d'un air déconcerté. Camoufle-le s'il le faut, mais porte-le, je t'en prie. Il baissa lentement les mains. Tu es sûr de ce que tu fais ? Demanda-t-il d'un ton incrédule. Oui. Et j'étais sincère. À mon réveil le lendemain, je trouvais le fou déjà debout, lavé et habillé, en train de remuer le gruau. Son paquetage trônait sur la table. Je parcourus la pièce du regard, toutes ses affaires avaient disparu. Il avait remis ses beaux atours, un solide contrepoint à l'humble tâche à laquelle il était occupé. « Tu t'en vas donc, » fis-je stupidement. « Tout de suite après le petit déjeuner, » répondit-il à mi-voix.
« Nous devrions l'accompagner. »
C'était la première fois depuis des jours que le loup me transmettait une pensée aussi directe. Je sursautais, puis me tournais vers lui en même temps que le fou. « Mais heure ?» demandai-je. Œil de Nuit se contenta de me retourner mon regard, comme si j'avais dû connaître la réponse à ma propre question. Mais ce n'était pas le cas. « Il faut que je reste ici. » dis-je à mes deux compagnons, qui ne parurent convaincus ni l'un ni l'autre. Leur opposer un refus me donnait l'impression d'être un rabat-joie pantouflard, et je n'appréciais pas cette image de moi-même. « J'ai des responsabilités, » repris-je, presque en colère. « Je ne peux pas m'en aller le nez au vent en laissant le petit rentrer dans une maison vide. »
« Non, tu as raison, »
répondit le fou. Pourtant, même son approbation me piqua au vif, car j'eus le sentiment qu'il cherchait seulement à m'apaiser, et une humeur maussade m'envahit. Le repas se passa dans une ambiance morose, et quand nous quittâmes la table, les bols et la marmite sale me firent soudain horreur. La vue de ces symboles de mes corvées quotidiennes, terre à terre, me paraissait tout à coup intolérable. « Je vais sceller ta monture, » déclarai-je brusquement au fou. « Inutile de crotter tes beaux habits. » Il ne dit rien, et je sortis en coup de vent. Malta devait percevoir l'excitation du voyage à venir, car elle était agitée, bien qu'elle se laissât faire sans difficulté. Je pris mon temps pour la préparer, et quand j'eus fini, sa robe luisait autant que son harnais. J'avais retrouvé une certaine sérénité, mais, alors que je menais la jument hors de la grange, je vis le fou debout sous l'auvent, une main sur l'échine d'Œil de Nuit. Et je m'assombris à nouveau. Par une réaction puérile, je l'en rendis responsable. S'il n'était pas venu me rendre visite, je n'aurais jamais pris conscience du vide que son absence laissait dans ma vie. J'aurais continué à regretter le passé, mais je n'aurais pas commencé à désirer un avenir. C'est avec un sentiment d'amertume et l'impression d'être devenu un vieillard avant l'âge que j'attendis son étreinte. Et le fait de savoir que mon attitude n'avait rien d'admirable n'arrangea rien. Quand il me serra dans ses bras, je restai raide comme un piquet, et c'est à peine si je lui rendis son accolade. Je pensais qu'il n'allait pas réagir, mais lorsque sa bouche s'approcha de mon oreille, il murmura d'un ton enamouré.
« Adieu, bien-aimé. »
Malgré ma mauvaise humeur, je ne pus m'empêcher de sourire. Je l'étreignis sur mon cœur, puis le lâchai. « Sois prudent, fou, » dis-je, bourru. « Toi aussi ?» répondit-il avec gravité en se mettant en selle. Je l'observais. Le jeune homme aristocratique assis à dos de cheval ne ressemblait aucunement au fou que j'avais connu enfant, et c'est seulement quand son regard croisa le mien que je retrouvai mon ami d'antan. Nous demeurâmes un moment les yeux dans les yeux, sans rien dire, puis, d'une légère saccade sur ses rênes accompagnée d'un déplacement de son assiette, il fit avancer sa monture. Malta encensa pour lui demander de la laisser choisir son allure. Il accepta, et elle partit aussitôt avec un empressement au petit galop, sa queue soyeuse flottant au vent comme un pennon. Je regardais le fou s'éloigner, et même quand je l'eus perdu de vue, je restais les yeux fixés sur la poussière qui retombait lentement sur le sentier. Lorsque je me décidai à rentrer dans la chemine, je constatai qu'il avait fait la vaisselle, récuré la marmite et tout rangé. Au milieu de ma table, là où était posé son paquetage, je découvris un cerf loin-voyant profondément gravé dans le bois, les andouillers baissés, prêts à charger. Je suivis des doigts les contours du dessin,
le cœur serré. « Qu'attends-tu de moi ? » demandai-je au silence qui m'entourait. Les jours passèrent et le temps s'écoula pour moi aussi, mais difficilement. Toutes les journées paraissaient semblablement monotones, et les soirées s'étendaient interminables devant moi. Le travail ne manquait pas pour remplir les heures, et je l'accomplissais, mais non sans observer qu'il ne semblait déboucher que sur du travail supplémentaire. Préparer le repas n'aboutissait qu'à faire la vaisselle, et planter une graine qu'à passer les jours suivants à désherber et à l'arroser. La satisfaction que je tirais naguère de la simplicité de mon existence me glissait désormais entre les doigts. Le fou me manquait, et je me rendais compte qu'il m'avait toujours manqué au cours de mes années de solitude. C'était comme une vieille blessure qui se réveillait et m'élançait à nouveau. Je ne pouvais même pas compter sur le loup pour la supporter. Une étrange humeur méditative l'avait envahie, et nous passions souvent nos soirées, chacun plongé dans ses réflexions. Une fois, alors que je ravaudais une chemise à la lueur d'une bougie, Œil de Nuit s'approcha de moi et posa la tête sur mon genou en poussant un soupir. Je lui caressais les oreilles, puis les grattais. « Ça va ? » lui demandai-je. « La solitude ne te vaudrait rien. Je suis content que le sans-odeur soit revenu. Je suis content que tu saches où le trouver. » Puis, avec un gémissement, il ôta son museau de ma jambe et alla se rouler en boule sur la terre fraîche, non loin de l'auvent. Les dernières chaleurs de l'été s'abattirent sur nous comme une couverture suffocante, et je transpirais à grosses gouttes en rapportant deux fois par jour des seaux d'eau pour le jardin. Les poules cessèrent de pondre. Il me paraissait impossible de survivre dans une atmosphère aussi torride et dans un marasme aussi pesant. Et puis, alors que je me morfondais ainsi, Heure revint. Je ne pensais pas le revoir avant la fin du mois des pleines récoltes, mais un soir, Œil de Nuit leva brusquement la tête, se mit debout avec raideur et se rendit à la porte pour observer le sentier. Au bout d'un moment, je posai le couteau que j'aiguisais et allai rejoindre le loup. « Qu'y a-t-il ? » lui demandai-je. « Le petit est de retour. » « Déjà ?» Mais alors même que je formulais cette pensée, je me rendis compte qu'il ne rentrait pas si tôt que cela. Les mois qu'il avait passés en compagnie d'Astérie avaient dévoré le printemps. Il était resté avec nous au début de l'été, mais ensuite, il avait été absent tout le mois des primes récoltes et une partie de celui des plaines. Il ne s'était écoulé qu'une lune et demie, et pourtant, cela m'avait paru horriblement long. J'aperçus une silhouette au loin, sur le chemin, et Œil de Nuit et moi nous hâtâmes de nous porter à sa rencontre. Quand il nous vit, il se mit à courir à petite foulée lasse pour nous rejoindre. Je le serrai sur ma poitrine et je sentis qu'il avait encore grandi et qu'il avait maigri. Je me reculai sans le lâcher et je lus sur son visage l'humiliation et la défaite. « Bienvenue à la maison, » lui dis-je, mais il haussa les épaules d'un air lugubre. « Je rentre la queue entre les jambes, » fit-il avec accablement. Puis il s'agenouilla pour prendre Œil de Nuit dans ses bras. « Mais il n'a plus que la peau sur les os !» s'exclama-t-il, consterné. Il a été malade, mais il se remet, répondis-je, en m'efforçant de prendre un ton enjoué, sans prêter attention au pincement d'inquiétude que j'avais ressenti. « Je te signale qu'on pourrait en dire autant de toi, » ajoutai-je. « Il y a de la viande sur le plat et du pain sur la planche. Viens manger, et tu nous raconteras comment tu t'es débrouillé dans le vaste monde. Je peux te le dire tout de suite, en quelques mots, » fit-il alors que nous nous dirigions d'un pas pesant vers la chaumière. Il avait la voix grave d'un adulte, et l'amertume aussi. Ça ne s'est pas bien passé. Les récoltes étaient bonnes, mais où que j'aille, j'étais le dernier embauché. Les cousins du propriétaire passaient en premier, ou bien les amis des cousins. Moi, je restais partout l'étranger, celui à qui on donnait les tâches les plus sales et les plus dures. Je trimais comme un homme, mais on me payait comme une souris, Tom, avec des miettes de pain et des pièces rognées. En plus, on me regardait avec méfiance. Je n'avais pas le droit de coucher dans les granges, ni de parler aux filles de la maison. Et entre deux embauches, il fallait quand même que je me nourrisse, et tout coûtait beaucoup plus cher que je ne m'y attendais. Je n'ai aujourd'hui qu'une poignée de pièces en plus de ce que j'avais en partant. Quel imbécile j'ai été de m'en aller. J'aurais aussi bien fait de rester ici pour vendre des poulets et du poisson salé. La hargne s'échappait de sa bouche comme un torrent de cailloux. Sans rien dire, je le laissai s'épancher, et nous finîmes par arriver devant la porte. Il se plongea la tête dans la barrique d'eau que j'avais remplie pour arroser le jardin, tandis que j'entrais mettre de quoi manger sur la table. À son tour, Il pénétra dans la maison et comme il parcourait la pièce du regard, je compris, sans qu'il eût à l'exprimer, que tout lui paraissait avoir rapetissé. « Ça fait du bien de se retrouver chez soi, » dit-il. Puis, dans le même souffle, il poursuivit. « Mais j'ignore comment je vais me procurer mon droit d'apprentissage, en cherchant de l'embauche comme journalier l'année prochaine, peut-être. Mais après ça, on risque de me juger trop vieux pour apprendre correctement. J'ai déjà croisé quelqu'un sur la route qui m'a dit n'avoir jamais connu d'artisan qui n'ait entamé sa formation avant l'âge de 12 ans. C'est du miel, ça ?»«
Oui. »
Le pot rejoignit le pain et le poulet froid sur la table. Eeyore attaqua son repas comme s'il n'avait rien mangé depuis des jours. Je préparais de la tisane, puis m'installais en face de mon garçon et le regardais se restaurer. Malgré son appétit féroce, il prenait le temps de donner de petits morceaux de viande au loup assis près de lui. Œil de Nuit les acceptait, non parce qu'il avait le ventre vide, mais pour faire plaisir aux petits et pour partager de la nourriture avec un membre de la meute. Quand il ne resta plus du poulet qu'une carcasse sans même assez de chair accrochée aux os pour faire une soupe, Heur se laissa aller contre le dossier de sa chaise avec un soupir de satisfaction. Soudain, il se pencha de nouveau en avant et suivit du bout de l'index le cerf à la tête baissée qui ornait le plateau de la table.
« C'est splendide ! Où as-tu appris à graver comme ça ?»«
Nulle part. C'est un vieil ami qui est venu me rendre visite et qui a passé une partie de son séjour à décorer la maison. » Je souris à part moi. « Quand tu auras un moment, va donc jeter un coup d'œil à la barrique d'eau de pluie. »«
Un vieil ami ?
Je croyais que tu ne connaissais personne en dehors d'Astérie. » Il ne l'avait pas fait exprès, mais le coup porta. Encore une fois, il suivait les contours du dessin du bout du doigt. Autrefois, Fitz Chevalerie loin-voyant avait arboré le même cerf aux andouillés baissés sur un blason brodé.
« Oh, si, j'ai quelques amis, » répondis-je. Mais je n'ai pas souvent de nouvelles d'eux, tout simplement.
Ah, et les nouveaux ? Gina a-t-elle fait halte ici en retournant à Castelcerf ?
Oui.
En remerciement de lui avoir offert le gîte pour la nuit, elle nous a laissé une amulette destinée à rendre le potager plus productif. Il me lança un regard oblique. Elle a donc passé la nuit ici ? Elle est gentille, hein ?
En effet.
Il attendit que je poursuive, mais je me tus. Il rentra la tête dans les épaules et tenta en vain de cacher un sourire égrillard derrière sa main. Me penchant vers lui, je lui donnai une taloche affectueuse sur la tête. Il écarta mon bras, puis il saisit soudain ma main, et son sourire laissa la place à une expression angoissée.
« Tom, Tom, que vais-je faire ? Je croyais que ce serait facile, et je me trompais. J'étais prêt à travailler dur pour un salaire honnête. Je me montrais poli, et je ne volais pas mon argent, et pourtant tout le monde me traitait comme à moins que rien. Que vais-je faire ? Je ne peux tout de même pas passer mon existence ici, dans ce trou perdu. Je ne peux pas. »
« Tu ne peux pas, c'est vrai. » Et en cet instant, deux révélations se firent dans mon esprit. D'abord, mon style de vie, coupé de tout et de tous, avait mal préparé le petit à se débrouiller seul dans le monde. Et ensuite, quand j'avais déclaré vouloir cesser mon métier d'assassin, Imbre avait dû éprouver les mêmes sentiments que moi en cet instant. On ressent une impression étrange quand on se rend compte qu'en donnant à un enfant ce que l'on considérait comme le meilleur de soi-même, on a réussi qu'à l'estropier. Devant le regard éperdu de Heur, je me sentais petit et honteux. J'aurais dû m'occuper mieux de lui. J'allais mieux m'occuper de lui. Je m'entendis parler avant même de savoir ce que j'allais dire. J'ai quelques vieux amis à Castelcerf. Je peux leur demander de me prêter la somme pour ton droit d'apprentissage. Le cœur serré, je songeais au genre d'intérêt qu'un tel emprunt risquait de me valoir, mais je m'armais de courage. Je solliciterai d'abord Imbre, et si le remboursement qu'il exigeait se révélait trop élevé, je me tournerai vers le fou. M'abaisser à quêter ainsi n'aurait rien de réjouissant, mais...
Tu serais prêt à ça, pour moi ? Alors que je ne suis même pas ton vrai fils ?
Heur paraissait ne pas en croire ses oreilles. Je pris sa main entre les miennes.
Oui, j'y serai prêt, parce que tu m'es aussi cher que le fils que je n'aurai sans doute jamais.
Je t'aiderai à rembourser cette dette, je te le jure.
Certainement pas. Cette dette sera la mienne, que j'aurai librement acceptée. De ta part, j'attendrai que tu sois attentif à ton maître et que tu t'appliques à connaître ton métier sur le bout des doigts.
Je te le promets, Tom, je te le promets, et je te jure que tu ne manqueras de rien quand tu seras vieux.
Il prononça ces mots avec la ferveur ardente et sans méchanceté de la jeunesse, et je les pris ainsi, en feignant de ne pas remarquer la lueur d'amusement qui s'était allumée dans le regard d'œil de nuit.
« Tu vois combien c'est agréable quand on te considère comme un vieillard qui s'avance d'un pas chancelant vers la mort. »«
Je n'ai jamais prétendu que tu étais au bord de la tombe. »«
Non, en effet, tu me traites simplement comme si j'étais aussi fragile qu'une vieille carcasse de poulet. »«
Et j'ai tort ?»«
Oui, mes forces me reviennent. Attends que les feuilles tombent et que le temps se rafraîchisse. Alors, je pourrai à nouveau t'épuiser à la marche, comme d'habitude. »«
Mais si je dois partir en voyage avant cela ?» Avec un soupir, le loup posa sa tête sur ses pattes antérieures tendues devant lui.
« Et si tu sautes à la gorge d'un cerf et que tu le manques, à quoi bon s'inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé ?»
D'une voix tendue, Heur rompit le silence apparent. « Est-ce que tu penses la même chose que moi ?» Je soutins son regard soucieux. « Peut-être ? Que te dis-tu ? » Il répondit avec hésitation.
Que plus vite tu parleras à tes amis de Castelserre, plus vite nous saurons à quoi nous en tenir pour l'hiver prochain.
Passer encore un hiver ici ne ferait pas tes affaires, n'est-ce pas ? Demandai-je lentement.
Non.
Sa franchise naturelle l'avait poussé à répondre du tac au tac, et il s'efforça d'adoucir son propos.
Ce n'est pas que je ne me plaise pas ici, avec Œil de Nuit et toi, mais c'est que...
Il chercha ses mots.
As-tu déjà eu l'impression de sentir le temps s'écouler en te laissant en arrière ? Comme si le fleuve de la vie poursuivait sa course, pendant que tu restes coincé dans un bras mort au milieu des poissons crevés et des vieux troncs moisis.
Je te laisse le rôle du poisson crevé. Moi, je ferai le vieux tronc moisi.
Je ne prêtais pas garde à Œil de Nuit. Oui, il me semble avoir déjà eu ce sentiment, une fois ou deux. Et, en jetant un coup d'œil à la carte des six duchés, que Vérité n'avait jamais achevée, je poussai un soupir que j'espérais inaudible. Je me mettrai en route dès que possible.
Je peux être prêt dès demain matin. Une bonne nuit de sommeil et je serai...
Je l'interrompis fermement, mais sans brutalité.
Non.
Je m'apprêtais à lui expliquer que je devais voir seul à seul les amis que j'avais évoqués, mais je me repris. Je ne tenais pas à lui donner matière à s'interroger. Je désignai Œil de Nuit de la tête. Je tiens à ce que la chaumière et la basse-cour ne restent pas sans surveillance pendant mon absence. Je t'en confie la responsabilité.
Heur eut l'air dépité, mais, et ce fut à son honneur, il redressa aussitôt les épaules et acquiesça.
Par terre, près de la table, Œil de Nuit roula sur le flanc, puis sur le dos.
Voilà, le loup est mort. Autant l'enterrer, s'il n'est plus bon qu'à rester allongé dans une cour poussiéreuse, à regarder des poulets qu'il n'a pas le droit de tuer.
Et il agita vaguement les pattes en l'air.
Idiot, c'est à cause des poulets que je demande au petit de rester. Pas à cause de toi. Ah bon ? Alors, si tu les trouvais tous crevés demain matin, plus rien ne nous empêcherait de partir ensemble.
Je ne te conseille pas d'essayer, répondis-je. Il ouvrit la gueule et laissa sa langue pendre d'un côté. Le garçon le regarda avec un sourire affectueux.
Quand il fait ça, j'ai toujours l'impression qu'il rit.
Je ne partis pas le lendemain. Levé bien avant Heure, je sortis mes vêtements encore convenables et les étendit pour les aérer, car ils avaient pris une odeur de renfermé à force de ne pas servir. La chemise avait jauni avec le temps. C'était un cadeau qu'Astérie m'avait fait bien des années plus tôt, et je n'avais dû la porter qu'une fois, le jour où je l'avais reçue. Je l'examinais avec un sentiment mitigé, en songeant qu'elle épouvanterait Humbre, mais amuserait le fou.
Bah,
comme pour bien d'autres aspects de ma vie, je ne pouvais rien y changer. Il y avait aussi... une grande boîte que j'avais fabriquée autrefois et qui reposait sur les poutres de mon atelier. Je l'en descendis, n'en sans mal, et l'ouvris. Malgré les tissus imprégnés d'huile qui l'enveloppaient, l'épée de Vérité s'était ternie au fil des ans. Je pris la ceinture à laquelle était suspendu le fourreau et la fermai sur ma taille, en notant au passage qu'il me faudrait y ajouter un cran pour la porter confortablement. En attendant, je rentrai le ventre et la bouclai telle quelle. Je passai un chiffon huilé sur la lame, puis l'engainai à mon côté. Quand je la ressortis, je la sentis lourde dans ma main, mais toujours aussi merveilleusement équilibrée. Je m'interrogeais. Était-il judicieux de la porter ? Je me trouverais dans une situation embarrassante si quelqu'un la reconnaissait et se mettait à poser des questions. D'un autre côté, Ma situation serait bien plus gênante si je me faisais trancher la gorge parce que je n'avais pas d'armes sous la main. Je résolus le dilemme en enroulant des lanières de cuir sur la garde pour en dissimuler les incrustations de pierres précieuses. Le fourreau, lui, avait un aspect usé, mais encore bon pour le service, ce qui convenait tout à fait à mon propos. Je dégainai l'épée à nouveau et me fendis, tirant sur des muscles qui avaient perdu l'habitude de tels mouvements. Je me redressai et donnai quelques coups de taille dans l'air. Je perçus de l'amusement.
« Tu ferais mieux de prendre une hache. »
« Je n'en ai plus. » C'était Vérité lui-même qui m'avait fait don de l'épée, mais Buriquet, lui, ne m'avait pas caché que ma façon de combattre appelait plus la brutalité de la hache que la grâce et l'élégance de l'arme que je tenais à la main. J'essayai un nouveau coup de taille. Mon esprit se rappelait tout ce que Od m'avait enseigné, mais mon corps avait des difficultés à exécuter les gestes.
« Tu en as bien une pour couper le bois. »
« Ce n'est pas une hache de guerre. J'aurais l'air malin avec un machin pareil. » Je glissai l'épée dans son fourreau et me tournai vers le loup. Il était assis dans l'encadrement de la porte, la queue méticuleusement rabattue sur les pattes, et un éclat moqueur brillait dans ses yeux sombres. Son regard prit soudain une expression innocente et lointaine à la fois.
« Je crois qu'une poule n'a pas passé la nuit. C'est bien triste, pauvre petite bête, mais la mort finit toujours par nous attraper tous. »
Il mentait, naturellement, mais il eut la satisfaction de me voir rengainer mon arme et me précipiter pour voir s'il disait vrai. Mais si Géline était là, au grand complet, occupée à se couvrir de poussière en gloussant au soleil, perché sur un poteau de la clôture, le coq surveillait ses femelles.
« Voilà qui est curieux. Hier, j'aurais juré que la grosse poule blanche était mal en point. Je vais m'installer pour garder un œil sur elle. »
Et joignant le geste à la pensée, il se laissa tomber à l'ombre mouchetée des bouleaux, le regard braqué sur la basse-cour. Je rentrai sans lui prêter davantage attention. J'étais en train de pratiquer un nouveau trou dans la ceinture d'épée quand Heur se leva. L'air endormi, il s'approcha de la table pour observer mon travail, et il se réveilla brusquement quand ses yeux se posèrent sur l'épée dans son fourreau.
« Je n'avais jamais vu cette arme ?»«
Il y a longtemps que je l'ai. »
« Tu ne l'as jamais portée quand nous allions au marché. Tu n'avais que ton couteau de ceinture. »«
Castelserre, c'est un peu différent du marché. » Mais sa remarque m'incitait à réfléchir au motif qui me poussait à me munir d'une épée. Lors de mon dernier séjour à Castelserre, quantité de gens souhaitaient ma mort. Si j'en rencontrais certains et qu'ils me reconnussent, je tenais à pouvoir leur faire face. On trouve beaucoup plus de malandrins et de fripouilles dans une ville comme celle que domine la citadelle que dans un simple marché de campagne. Ma ceinture avait désormais un nouveau cran, et je l'essayais. Elle m'allait mieux. Je tirai l'épée du fourreau, et j'entendis Heur pousser une exclamation étouffée. Malgré le cuir sans apprêt dont j'avais enveloppé sa garde, elle n'avait manifestement rien d'une arme de basse qualité. C'était la création d'un maître.
« Je peux la prendre ?»
J'acquiesçai de la tête, et Heur saisit l'épée avec précaution. Il ajusta sa prise à son poids, puis imita maladroitement la posture d'un bretteur. Je ne lui avais jamais appris à se battre avec une arme, et je me demandais un instant si c'était une erreur. J'avais espéré qu'il n'aurait jamais besoin de ce genre de connaissances, mais, en refusant de le former au combat, je l'avais laissé à la merci du premier qui le provoquerait. Tout comme devoir que j'avais refusé de former à l'art. Je chassais cette pensée de mon esprit et, sans mot dire, j'observais Heur qui faisait des moulinets avec l'épée. Très vite, il se retrouva épuisé. Les muscles durs du fermier ne sont pas ceux qui servent pour l'escrime. La résistance nécessaire pour manier une telle arme exigeait un entraînement et des exercices constants. Il la posa sur la table et me regarda. « Je partirai pour Castelserre demain à l'aube, » déclarai-je. « Il me reste encore à nettoyer cette lame, à graisser mes bottes, à préparer des vêtements et des vivres. »«
Et à te couper les cheveux, » dit-il calmement.
« Hum ?» Jusque-là, c'était Astérie qui me rendait ce service quand elle venait me voir. J'allais à l'autre bout de la pièce prendre notre petit miroir et j'examinais ma coiffure, surpris de la longueur de mes cheveux. Alors, dans un geste que je n'avais plus accompli depuis des années, je les ramenais en arrière et les nouais en queue de guerrier. Heur me dévisagea, les sourcils levés, mais ne fit aucun commentaire sur mon apparence martiale.
J'achevais mes préparatifs bien avant le crépuscule. Aussi portais-je mon attention sur ma petite propriété et m'occupais-je avec le petit de prévenir tous les problèmes qui pourraient s'opposer à lui pendant mon absence. Quand nous nous assîmes devant notre dîner, nous avions pris de l'avance sur toutes les corvées qui m'étaient venues à l'esprit. Heure me promit d'arroser le potager et de récolter les derniers pois. Il refendrait aussi les bûches restantes pour finir de remplir la réserve de bois. Quand je m'aperçus enfin que je lui répétais des consignes qu'il connaissait depuis des années, je me tus, et il sourit de mes inquiétudes. J'ai réussi à survivre seul sur la route, Tom. Je me débrouillerai parfaitement à la maison. Je regrette seulement de ne pas t'accompagner. À mon retour, si tout se passe comme je le souhaite, nous nous rendrons ensemble à Castelserre. Œil de Nuit se redressa brusquement sur son arrière-train, les oreilles droites.
Tes chevaux !
Je m'approchai de la porte ouverte, le loup près de moi, et au bout de quelques instants, je perçus des bruits de sabots. Les animaux venaient dans notre direction à un trot soutenu. Je m'avançai sur le chemin, m'arrêtai là où je distinguais l'amorce d'un tournant, et j'entrevis le cavalier. Ce n'était pas le fou comme je l'avais espéré, mais un inconnu qui montait un cheval rouant de grande taille et en menait un autre derrière lui. Des traînées de sueur zébraient la poussière qui couvrait le garrot de la bête. Un mauvais pressentiment grandit en moi à mesure que le groupe progressait vers moi. Et le loup partagea mon trouble. Ses poils se hérissèrent sur son dos, et le grondement qui s'échappa de sa gorge attira Heure à la porte.
« Que se passe-t-il »
« Je l'ignore, mais je peux te dire que nous n'avons pas affaire à un voyageur de passage, ni à un colporteur. » À ma vue, le nouveau venu tira les rênes, leva une main en signe de salut, puis reprit sa route vers nous, mais plus lentement. Les chevaux dressèrent les oreilles en flairant l'odeur du loup, et je perçus à la fois leur inquiétude et leur envie de l'eau qu'ils avaient également sentie proche.
« Vous vous êtes égaré, l'ami ? »
demandai-je à l'homme, alors qu'il se trouvait encore à une distance que je jugeais sans risque. Sans répondre, il continua d'avancer. Le loup se mit à gronder plus fort, mais le cavalier ne parut pas entendre l'avertissement. « Attends, » dis-je à Œil de Nuit. Sans bouger, nous regardâmes l'homme approcher. Le cheval qu'il menait était scellé et harnaché. L'inconnu avait-il perdu un compagnon ou bien volé la monture ?
« Ça suffit, pas plus près, » dis-je tout à coup. « Que venez-vous faire ici ? »
Il m'observait avec attention. Sans tenir compte de mon injonction, il montra d'abord ses oreilles, puis sa bouche. Je levai la main.
« Arrêtez-vous !» lui ordonnai-je.
Il comprit mon geste et obéit. Sans mettre pied à terre, il fouilla dans une sacoche sanglée sur sa poitrine et en tira un manuscrit qu'il me tendit.
« Reste vigilant !»
transmis-je à Œil de Nuit, tout en m'avançant pour prendre le rouleau. Il portait un sceau que je reconnus aussitôt. Dans l'épaisse cire rouge était imprimé mon emblème personnel, le cerf qui charge. Un trouble d'un ordre différent me saisit alors. Je restai un moment les yeux fixés sur la missive, puis donnai d'un geste l'autorisation au sourd muet de descendre de cheval. Je pris une inspiration pour me calmer, puis, d'une voix ferme, je dis à Heure,
« Emmène-le à l'intérieur et donne-lui à manger et à boire, et fais-en autant pour ses chevaux, s'il te plaît. »
J'ajoutai à l'intention d'Œil de Nuit, « Surveille-le, mon frère, pendant que je lis le message. » Le loup cessa de gronder sourdement, mais il suivit de très près l'homme à qui Heure, l'air perplexe, faisait signe d'entrer dans la maison. Les chevaux fatigués restèrent sur place jusqu'à ce que, peu après, le garçon ressorte pour les mener boire. Je me retrouvai seul dans la cour à regarder fixement le manuscrit roulé dans ma main. Enfin, je me décidai à briser le sceau et je déchiffrai l'écriture penchée d'imbre à la lumière déclinante du jour. Cher cousin, certaines affaires familiales requièrent votre attention. Ne retardez point davantage votre retour. Vous le savez, je ne vous rappellerai pas aussi cavalièrement si la nécessité ne s'en faisait pas sentir de façon pressante. La signature au bas de ce bref courrier n'était qu'un gribouillis. En tout cas, ce n'était pas celle d'Imbre. Le véritable message, c'était le sceau lui-même. Mon ancien mentor ne s'en serait jamais servi dans des circonstances normales. Je roulai le vélin et levai les yeux vers le soleil couchant. Le messager se leva quand je rentrai dans la maison. La bouche encore pleine, Il s'essuya les lèvres du dos de la main et me fit comprendre qu'il était prêt à reprendre la route sur le champ. Humbre avait dû lui donner des instructions très précises. Ni homme ni bête n'avait de temps à perdre, à se reposer ni à dormir. Je lui fis signe de reprendre son repas en me félicitant d'avoir fini de préparer mon paquetage. « J'ai décelé les chevaux et je les ai un peu bouchonnés », annonça Heur en passant la porte d'entrée. « On dirait qu'ils ont fait un sacré bout de chemin aujourd'hui. » Je m'endurcis. Remets leur sel. Dès que notre ami se sera restauré, nous partons. L'espace d'un instant, il resta bouche bée, abasourdi. Puis d'une petite voix, il demanda
« Où allez-vous ?»
Je m'efforçai de sourire d'un air convaincant. « À Castelserre, mon garçon, et plus vite que prévu. » Je réfléchis. Non. Il m'était impossible d'estimer quand je reviendrais, ou même si je reviendrais. Pareil message de la part d'Imbre ne pouvait laisser augurer que du danger. Et stupéfait, je pris alors conscience de la facilité avec laquelle j'avais décidé de répondre à son appel. « Je veux que vous nous suiviez, le loup et toi, demain, dès l'aube. Harnache la ponette et emmène-la. Si Œil de Nuit se fatigue, il pourra se reposer dans la carriole sans vous ralentir. » Heur me regardait comme si j'étais devenu fou.
« Mais les poules? Et les travaux que je devais terminer pendant ton absence ?»«
Il faudra que les poules se débrouillent seules. Ou plutôt non, une belette les aurait toutes saignées avant une semaine. Confie-les à Bellor, il s'en occupera pour les œufs. Prends un jour ou deux pour tout mettre en ordre, puis boucle bien la maison. Nous risquons de ne pas revenir avant un moment. » Devant l'incompréhension qu'exprimait le visage de Heur, je détournai le regard.
« Mais... »
La peur que je perçus dans sa voix ramena mes yeux vers lui. Il me dévisageait comme s'il ne me reconnaissait pas.
« Où dois-je aller une fois arrivé à Bourg de Castelserre? Tu me retrouveras là-bas ?»
Dans sa question vibrait l'écho des émotions de l'enfant abandonné qu'il était. Je remontais de 15 ans dans mes souvenirs, à la recherche du nom d'une auberge convenable. Mais, avant que j'en eusse trouvé un, il déclara d'un ton plein d'espoir.
« Je connais l'adresse de Gina et de sa nièce. Elle m'a dit que je l'y trouverai lorsque je reviendrai à Castelserre. Sa maison porte une enseigne de sorcière des haies, une main ouverte avec des lignes sur la paume. Nous pourrions nous y donner rendez-vous ?»«
D'accord. » Un grand soulagement se peignit sur ses traits. Il savait où il allait. Je me réjouis qu'il pût se reposer sur cette assurance, car pour ma part, je ne disposais pas d'un tel appui. Pourtant, malgré mes inquiétudes, je me sentais envahi d'un curieux sentiment d'exaltation. Je m'étais laissé rattraper par Humbre et ses vieux envoûtements, mystères, secrets et aventures. Le loup s'appuya contre ma jambe. Un temps de changement. Puis, il ajouta d'un ton bourru. « Je pourrais essayer de soutenir l'allure des chevaux. Castelserre n'est pas si loin que ça. » « Tant que je ne sais pas de quoi il retourne, mon frère, je préfère que tu restes auprès de Heur. Et tu espères ainsi éviter de froisser ma fierté. » « Non, j'espère apaiser mes craintes. Alors, je le protégerai jusqu'à Bourg de Castelserre, mais ensuite, c'est près de toi que je serai. » « Naturellement, toujours. » Avant que le soleil donne un dernier baiser à l'horizon, j'étais monté sur le cheval gris et sans trait particulier qui avait amené le messager. Camouflé, l'épée de vérité pendait à ma hanche, mon paquetage était fermement fixé derrière ma selle, et je suivais mon compagnon silencieux qui nous entraînait rapidement sur la route de Castelserre.